Bonjour à tous, je suis Patrick Sauss, éditorialiste international à BFM TV. Depuis le 24 février 2022, il est quasiment impossible de se rendre librement en Russie, un pays qui nous semblait déjà bien mystérieux et qui est désormais fermé à double tour, sauf à travailler dans un cadre très restreint, mais vous allez le voir, qui offre parfois des libertés inattendues. Deux témoins avec moi aujourd'hui, notre correspondant à Moscou, Paul Gogo, et Jérémy Normand, grand reporter à Ligne Rouge et envoyé spécial en Russie pour couvrir la dernière présidentielle. Bienvenue dans l'œil de Moscou. Salut Jérémy.
Salut Patrick.
On profite vraiment de t'avoir parce que tu es en plein montage, on en parlera à la fin de cet épisode, en immersion dans la Russie de Poutine. Et je voulais un peu confronter tes vues, ta vision avec celle de Paul Gogo. Salut Paul.
Salut.
Qui est de passage à Paris avant de repartir à Moscou. Et ça, on aura largement le temps d'en parler aussi, puisque le mois de mai va être l'occasion, notamment le 9, d'une grande opération de propagande, la grande parade pour la victoire dans la grande guerre patriotique. Puisque c'est ainsi qu'on doit l'appeler. D'abord, Jérémy, toi qui as encore la tête bien à Moscou, en plein montage, tout simplement, qu'est-ce qui ressort déjà en termes de pure émotion ou de pur instinct de ta mission ? Une semaine environ à Moscou, mais pas qu'à Moscou.
Absolument, 8 jours en immersion dans cette Russie qui nous était jusqu'ici interdite, en immersion avec Étienne Grelet à la caméra. 8 jours pour découvrir ce que l'on pouvait nous permettre de voir, à Moscou principalement, et aussi tenter quelques incursions dans les villages plus lointains, peut-être un peu moins surveillés. C'est ce que l'on pensait, parce qu'on va le voir, on va peut-être en parler, on était en fait en permanence suivis ou épaulés, surveillés. C'était parfois dit, parfois c'était dans la communication non verbale qu'on comprenait que tout ce que l'on pouvait dire et toutes les personnes qui pouvaient être amenées à discuter avec nous étaient surveillées. Donc c'est vraiment cette sensation à la fois glaçante et très dérangeante d'une Russie qui nous a ouvert les bras, mais dans une liberté extrêmement surveillée. Je prends un premier exemple. Avec Étienne Grelet, on est parti à 70 km à l'ouest de Moscou, dans un village qui s'appelle Zvenigorod, avec un joli monastère. C'est la Russie des campagnes, la Russie carte postale. On est invité par une association de soutien militaire qui fabrique des filets de camouflage qui serviront à protéger les tranchées sur le front. On nous présente évidemment les dons faits par les magasins, faits par les habitants des villages alentours. Et tout ce qu'on nous dit, avec un grand sourire, eh bien, est contrôlé par un homme qui nous suit tout au long de notre visite. À aucun moment cet homme nous est présenté. Et lorsque je pose la question, parce qu'il nous suivait de très près, et on me dit « Oh, c'est un simple bénévole de l'association, il regarde la façon dont vous faites l'interview ». Et puis, de temps à autre, quand je regardais, il avait son téléphone brandi vers nous. Il nous filmait. Il filmait les propos de la bénévole. Et on l'a même capté sur les images d'Étienne Grelet. On le voit nous filmer. Il se voit observer, pris la main dans le sac et il nous fait un petit sourire. Donc, c'est pour ça que c'est un charme un petit peu glaçant. C'est qu'on est accueilli, on est surveillé, mais à aucun moment, il y a une forme de coercition, d'interdiction formulée officiellement.
Tu peux rappeler un petit peu comment ça s'est passé au-delà du visa ? C'est pas la Corée du Nord, c'est beaucoup plus compliqué que ça, puisqu'effectivement, tu as pu tourner. Mais comment, justement, tu t'es retrouvé dans l'aéroport de Paris à la possibilité de filmer, mais dans les conditions que tu viens d'expliquer, dans la région de Moscou ?
De façon très transparente, nous, à BFM TV, on n'avait plus accès à la Russie depuis 2 ans. Le dernier reporter de BFM TV, c'était Cédric Fesch, qui s'y était rendu pour le 9 mai 2022, donc pour cette grande parade sur la Place Rouge. Et depuis, impossible pour nous, reporters de BFM TV, d'obtenir ce Graal, ce sésame qui nous permet d'embarquer dans cet avion. Et puis, 10 jours avant l'élection, mon téléphone sonne, le porte-parole de l'ambassade de Russie m'appelle et me dit en ces mots, Jérémy, vous allez pouvoir commencer à sauter de joie, vous avez votre visa, vous allez pouvoir venir couvrir l'élection. Là aussi, on comprend rien qu'avec cette façon de nous parler, tout l'aspect étrange de cette communication et de cette façon de faire avec les Russes. On nous a jamais dit non, on nous a jamais dit oui, on nous a dit qu'on était un média hostile, et puis finalement on nous permet de partir. On comprend que ça va pas être simple, et d'ailleurs, dès notre arrivée à Moscou, après un voyage de 12 heures en passant par Istanbul, puisqu'il n'y a plus de vol direct entre Paris Paris et Moscou. Eh bien, en arrivant à Moscou à l'aéroport, nous avons été retenus pendant 5 heures avec Étienne dans une salle, sans boire, sans manger, sans qu'on nous explique non plus ce qu'on faisait ici et ce qu'on allait nous demander. On nous avait pris nos passeports. Mais tout ça est normal en Russie, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'inquiéter. Vous allez être reçus l'un et l'autre séparément, bien sûr, dans une salle. On va vous poser quelques questions dans un anglais plus que bancal. Et puis, on nous explique qu'on va se voir attribuer un employé spécial du gouvernement qui sera en charge d'assurer notre sécurité.
On disait commissaire du peuple dans le temps, non ?
Exactement, c'est la nouvelle appellation. Et puis, finalement, cet employé spécial n'est jamais venu à notre rencontre lors de notre mission. Donc, ce que j'ai compris, moi, c'est que c'était une façon de nous dire « Attention, vous pouvez être surveillé, vous pouvez recevoir de la visite à tout moment. Donc, n'ayez pas trop l'idée d'aller voir des dissidents, des opposants au régime, parce que vous les mettriez en danger, puisqu'on pourrait venir vous voir et les voir à ce moment-là. »
Paul, explique-nous, parce que je te voyais sourire justement à cette évocation des contrôles, mais aussi, je ne sais pas comment on dit en russe, épée de Damoclès, c'est que finalement on fait percevoir une espèce de doute, de malaise qui fait que on fait attention. Toi, comment ça se passe en tant que correspondant ?
Et c'est intéressant parce que moi, il ne m'arrive pas les mêmes choses, en fait. Parce que déjà, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'effectivement, c'est particulier. Les autorités russes ont décidé de donner un visa d'une semaine pendant la présidentielle à plusieurs médias, dont BFM. Ce qui nous a tous étonnés à Moscou, parce qu'effectivement, nous, on n'a plus de visite à Moscou depuis le début de la guerre, vu qu'on ne donne plus de visa, plus d'accréditation à personne, à part les nôtres correspondants permanents, donc des accréditations renouvelées tous les 3 mois. Et je sais que tout le monde a eu à peu près le même tarif pour ce qui est de l'arrivée à l'aéroport. Et derrière, une fois que la mission est terminée, je sais qu'il y a des gens au ministère, au FSB, à Moscou, qui regardent ce qui a été produit, qui étudient ce qui a été produit et qui essaient de voir si ça valait le coup ou pas d'accueillir des correspondants à Moscou. Et cette personne qui a été éventuellement amenée à vous suivre, je pense que c'était aussi une façon de pousser l'équipe à rester à Moscou, on va dire dans la grande banlieue de Moscou, parce que je sais que d'autres collègues, eux, avaient fait des lettres assez folles à l'ambassade en me disant « moi, je vais aller couvrir la guerre à Belgorod, je vais aller rencontrer des gens ». Et ça, je ne suis pas sûr que les autorités aient trop apprécié ça. Et donc, je pense que c'était une façon de dire « calmez-vous, vous n'avez qu'une semaine sur notre territoire ». Donc si vous pouviez rester à couvrir la présidentielle à Moscou, ce serait bien. Bon, bah, il se trouve que BFM a réussi à sortir un peu de Moscou et en plus à ne pas travailler que sur la présidentielle. Donc c'est en soi déjà une victoire parce qu'effectivement, travailler dans ces conditions-là, ça ne devait pas être évident.
Mais alors, on parlait de suivi avec Jérémy et ce bénévole. Alors il y a le Z de zèle, mais il y a aussi le F, le S et le B. Toi, tu as un officier traitant.
Oui,
pour toi.
Mais qu'on connaît quelqu'un qui travaille officiellement au ministère des Affaires étrangères russe, qui est le ministère donc, qui gère nos visas et nos accréditations, qui parle français. Hein, quand je l'ai au téléphone, il me parle en français. Moi, il tient à parler en français. Moi, je tiens à lui parler en russe. Quand je l'ai au téléphone, on rigole, quoi. On se fait des blagues. Lui, il m'assure qu'il se bat pour la liberté de la presse. La dernière fois que je l'ai eu au téléphone, il m'a fait une blague en disant « Mais j'ai tellement défendu les intérêts des journalistes français en Russie que je pourrais devenir avocat. » Des blagues de ce type-là. Donc, effectivement, il y a ce côté sympathique où on a presque envie de se dire « Ah, ça pourrait être mon pote. » Mais ce n'est pas nos amis parce qu'effectivement, derrière, il y a des situations, comme tu racontais, vous êtes suivi, des gens vous prennent en photo, vous filment. Ça, c'est quelque chose que les diplomates français à Moscou vivent beaucoup. Moi, je l'ai très peu eu. Mais voilà, c'était fascinant de te voir venir à Moscou parce que clairement, je pense que dans leur esprit, ils ont pris un risque en disant... Il y a des gens, en fait, au ministère qui ont dit « Ok, on va accepter un certain nombre de journalistes. » Et derrière eux, ils ont des comptes à rendre au-dessus. Et si un des journalistes qui était venu à Moscou avait fait... la totale opposant, femme de soldat mécontente, ou je sais pas quoi, ce qui est très dur à faire en une semaine. Mais je pense que là, il se serait fait disputer par les gens au-dessus.
Il y avait l'idée, parce que les auditeurs de ce podcast, au bout de quelques épisodes, ont compris, Paul, que vraiment, tu connaissais parfaitement les Russes, la Russie, que tu t'étais imprégné de la culture. Et lorsque tu me parlais de la mission de Jérémy, il y avait l'idée un peu d'un chien dans un jeu de quilles.
Il a mis les pieds dans le plat. Moi, je regardais du coup BFM parce que je... En gros, pour expliquer un peu les coulisses, on s'est un peu partagé l'antenne. C'est-à-dire que toi, bah, pendant que tu tournais, parce que vous aviez pris, c'était l'objectif principal, c'était la priorité, vous avez pris du temps pour tourner ce long format. Et donc moi, pendant que vous tourniez la journée, j'assurais les directs. Et toi, tu avais le courage de les assurer le matin et le soir en plus du tournage. Et c'est... effectivement, c'était assez intéressant quand je voyais l'antenne le soir, parce que je te voyais mettre les pieds dans le plat, des choses que je ne fais plus, des choses qui ne m'arrivent plus depuis très longtemps. Et ça a côté positif, parce qu'en fait, moi, ça me permet aussi de voir où on en est, de voir ce qui se passe quand on fait des choses que j'ai appris à ne plus faire. Et de manière générale, j'ai toujours été très ouvert aux envoyés spéciaux envoyés par Paris, parce qu'eux vont faire les demandes que tu ne fais plus, toi, pendant, depuis des années et des années. Et le truc, c'est que ça marche, quoi, parfois. Et tu te dis, ah ouais, d'accord, donc moi, j'en suis arrivé là, je ne fais plus ces demandes-là. Et en fait, il faudrait que je continue à les faire, parce que ça peut fonctionner.
Je sais que toi, Jérémy, là, au montage, tu es en train de découvrir des choses. Et c'est valable pour toutes les missions dans des pays exotiques au sens propre du terme, c'est-à-dire éloignés de notre culture. Et encore, si on part au Royaume-Uni, en Espagne, on peut toujours être étonné par des choses, et bien heureusement. Est-ce qu'il y a des choses, tu te dis, ah oui, évidemment, si j'avais mieux compris ou intégré depuis très longtemps la Russie, ça, là, je l'aurais compris.
Il y a une première chose que j'aurais peut-être pu percevoir si j'avais été là de façon plus pérenne, c'est qu'on ne fait pas un duplex où l'on veut, quand on veut. On a assuré plusieurs duplex depuis une même position, c'est-à-dire juste devant le Kremlin. Derrière nous, il y a la rivière Moskva et le Kremlin derrière, donc c'est évidemment
une carte postale
très parlante, surtout quand on parle du pouvoir russe. On n'avait pas été embêté jusqu'ici par des autorités ou des policiers pour faire ce duplex depuis cette position. Et puis le soir où Vladimir Poutine est sur la place rouge, c'est-à-dire à 300 mètres derrière nous, pour faire son discours devant la foule qu'il a évidemment rassemblés de façon opportune, eh bien là, on est venu nous interrompre en plein duplex parce que ce n'était plus possible, ce n'était plus autorisé de filmer et donc de faire ce duplex à cet endroit-là, à ce moment-là. Ce que m'a expliqué ensuite le fixeur, c'est-à-dire le journaliste local qui nous aide pour la traduction et puis pour le calage des reportages, eh bien c'est que pour ce jour-là, il y avait des dispositions de sécuritaires particulière, et notamment l'impossibilité de se rassembler. Se rassembler en Russie, c'est lorsqu'on est plus d'une seule personne. À partir de deux personnes, c'est un rassemblement, c'est une manifestation. Et donc, il n'y avait pas besoin d'une loi qui ciblerait spécifiquement des journalistes français de BFM TV à ce moment-là. Non, il y a une loi bien plus générale, un arsenal juridique tellement large qu'il englobe toute situation qui permette aux policiers, en toute légitimité, eh bien, de nous interrompre ou de venir nous embêter lorsqu'on fait ce duplex. Donc ça, évidemment, j'aurais peut-être pu le percevoir si j'avais été ici de façon plus pérenne.
Oui, mais ça, c'est compliqué, encore une fois, Paul. La Russie, entre autres, c'est un arbre à règles et à lois. C'est-à-dire que c'est le printemps tous les jours, il y a des feuilles qui poussent, des nouvelles règles, des nouvelles lois. Comment tu fais pour t'en sortir? Parce que, évidemment,
on pense qu'il y a de la liberté d'après.
C'est totalement
c'est
la tête du client.
C'est ça, t'as les lois d'un côté, et puis en fait, t'as juste l'interprétation, l'humeur du policier ce jour-là. Là, effectivement, ça m'a un peu surprise ce qui t'est arrivé, parce que moi, ça m'est jamais arrivé. Et en même temps, je ne fais plus de direct à cet endroit-là depuis longtemps, parce que je sais que le FSO, les services de sécurité qui surveillent Poutine, sont assez présents et ont vite fait de venir t'embêter. Et en même temps, bon, bah oui, t'étais pas très loin de Poutine, alors j'imagine qu'eux-mêmes étaient en alerte. Il y a toujours en fait cette logique de si le grand chef est dans le coin, alors là, il faut prendre aucun risque. Et donc, c'est même plus une question de règles, c'est une question de la peur du supérieur. Et ça, je l'ai souvent observé dans des événements dans lesquels Poutine devait venir, où l'ambiance devient très très lourde instantanément. Et même sans voir Poutine, à partir du moment où il a quitté les lieux, tu sens l'ambiance se relâcher, tu sens l'atmosphère se relâcher.
À tel point que dans notre hôtel qui était juste à côté, il nous était interdit d'ouvrir les fenêtres pendant toute la journée où Poutine allait venir s'exprimer. On a posé sur notre lit, au retour du petit déjeuner, on a découvert ça sur notre lit, une feuille où il était écrit en anglais qu'il nous était impossible d'ouvrir les fenêtres en raison de dispositions particulières. On a compris évidemment quelques heures plus tard que ces dispositions, c'était l'arrivée du président Poutine. Il faut quand même se rendre compte, on est dans l'un des plus grands hôtels de Moscou qui accueille, c'était surtout des hommes d'affaires chinois et tous ceux qui veulent bien faire du business en Russie et quelques journalistes. Et là, interdiction pour tout le monde d'ouvrir la fenêtre. Il faisait pas encore très chaud dehors, hein, donc on n'avait pas forcément à avoir l'envie, mais c'est dire à quel point le climat, il est complètement paranoïaque, pardon, mais parce que je pense que l'idée derrière, c'est qu'on puisse, en ouvrant la fenêtre, en anglant bien, eh bien, projeter quelque chose, un signal, un missile, qui sait, vers la place rouge. Bon, voilà le genre de règles qui s'appliquent lorsque Vladimir Poutine descend voir son peuple.
L'épée de Damoclès, pour reprendre encore cette expression, elle est vraiment là pour tout le monde. Chacun a peur de son chef jusqu'au chef suprême.
Oui, et pour continuer de répondre à la question que tu posais tout à l'heure, effectivement, il y a les règles, Et la difficulté, et c'est pour ça que c'est vraiment pas facile, comme vous, vous n'avez que quelques jours pour travailler à Moscou, c'est que depuis le début de la guerre, nous sommes un peu les Christophe Colomb de la répression en Russie. C'est-à-dire qu'on peut être amené à découvrir une nouvelle règle à tout moment, sans s'y attendre. Ne serait-ce que parce que n'importe qui peut créer ses règles dans certaines situations. Et donc, c'est une grosse difficulté. Moi, maintenant, je réfléchis à deux fois avant de partir en reportage hors de Moscou. Parce que, bon, à Moscou, il ne peut pas nous arriver grand-chose. Tu vois, il y a des contrôles un peu poussés comme ça. Au pire du pire, tu finis au poste, mais ça ne dure jamais assez très longtemps parce qu'il y a des caméras partout et ils savent en fait ce qu'on fait en permanence à Moscou. Mais dès que tu sors de Moscou, alors là, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver parce que c'est le FSB local qui... C'est l'humeur du FSB local. Et tu ne sais jamais... parce qu'après, c'est un engrenage. C'est-à-dire qu'on est considérés comme des inamicos en Russie, si un policier du coin m'arrête par excès de zèle, il m'emmène au commissariat, l'information elle remonte au FSB, puis le FSB se dit maintenant on peut pas libérer un ennemi en fait, même s'il a rien fait, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et donc l'info va remonter jusqu'à Moscou, et puis en fin de journée vous êtes condamné à 15 ans de prison, vous avez strictement rien fait, et parce que personne n'a eu le courage de libérer un ennemi arrêté un peu par erreur. Ça, c'est ma plus grosse phobie en Russie.
Justement, cette étrangeté dans l'air, le fait tu es peut-être déjà parti dans des pays qui sont des dictatures. Moi, j'ai fait l'Afghanistan, la Tunisie de Ben Ali, l'Égypte de Moubarak ou la Libye de Kadhafi. On sait qu'on y est dans la dictature, mais pour les gens aussi. Là, comment tu as ressenti ces choses-là dans un état illibéral?
On a fait le choix d'aller à la rencontre de ces Russes qui soutiennent le régime de Poutine, alors même que leur profil ne les enjoint pas à le faire naturellement. Je prends un exemple très simple. On est allé voir une mère de soldat qui a perdu la vie sur le front en Ukraine. Moi, je pensais que cette maman se serait détournée de la guerre ayant perdu son fils. Eh bien, pas du tout. Elle a donné tout son temps libre au service de l'effort de guerre. Elle donne tout son argent pour la guerre. Et elle m'expliquait, bien sûr, qu'elle ne voulait pas que la vie de son fils soit perdue de façon vaine. Elle nous expliquait qu'il était important que la victoire arrive. Et donc, voilà, vraiment, moi, cette rencontre m'a déstabilisé. Ce qui m'a déstabilisé aussi, tout simplement, c'est que lorsqu'elle m'a parlé de son fils qu'elle a perdu, elle avait les larmes aux yeux et à la fin de l'interview, elle me tombe dans les bras. Ce genre de situation, nous, journalistes, j'imagine que vous l'avez aussi vécu sur différents terrains. Face à moi, j'ai un humain qui vient de m'ouvrir son cœur, qui vient de pleurer devant moi, et qui pourtant représente l'adversaire tel qu'il est désigné par notre président. Mais il y a une sincérité. Et quand elle me partage son histoire et qu'elle me tombe dans les bras à la fin, bah, en fait, on oublie tout. Je ne suis plus le journaliste français. Elle n'est plus la Russe embrigadée, endoctrinée par sa guerre. On est deux humains. Et en l'occurrence, elle a vécu un événement traumatisant. Et donc, bon, pendant quelques secondes, on oublie le contexte. Et puis, voilà, quelques secondes après, quand elle me retient un discours totalement... réciter sur le bien fondé de cette guerre contre l'Occident, elle a aussitôt reswitché, c'est-à-dire qu'elle a aussitôt repris le contrôle d'elle-même, et moi aussi, et donc voilà, ça a été une parenthèse de quelques secondes dans un discours où elle est dans sa communication et moi en train d'essayer de chercher des réponses.
Et ben, c'est fou parce que cette parenthèse que tu as vécue, à mon avis, c'est le cœur de ce qui rend notre travail difficile en Russie, parce que tu as touché à la douleur russe, enfin, si je peux me permettre de le dire comme ça. Et en fait, quand on est journaliste occidental, qu'on couvre cette guerre, on sait ce qui se passe en Ukraine, on sait que les Ukrainiens ont leur poids l'espace médiatique français, parce que ce sont les victimes de cette invasion russe. On connaît l'ampleur de la douleur ukrainienne. Mais du coup, parler de la douleur russe, c'est assez compliqué parce qu'effectivement, vous allez avoir ces personnes qui vraiment souffrent et vivent des choses horribles, mais qui derrière vont tenir des discours qui sont incompréhensibles pour nous parce que ce sont des discours construits par la propagande russe. Et c'est intéressant la façon dont tu viens de le décrire parce que moi, c'est mes difficultés depuis 2022. C'est de réussir, que ce soit dans mes articles écrits ou dans mes interventions, à faire passer le fait que c'est pas juste une société qui a l'air d'accepter la guerre ou de faire l'autruche ou de se foutre de tout. Non, il y a une vraie douleur. La guerre, elle a amené une vraie douleur dans la société russe, la terreur d'un côté, une douleur de l'autre. Et la raconter, c'est super complexe, super difficile.
Alors, tout à l'heure, Paul, tu disais que depuis le temps que tu étais sur place, il y a des personnes à qui tu ne pensais plus lorsque tu disais, tiens, il faudrait que je fasse une grande interview. au hasard le vice-président de la Douma, francophone, pas forcément francophile.
Je me lance pas
Piotr
là-dessus.
Tolstoï, bien si, justement. Partons là-dessus. Pourquoi on en parle ? Parce que Jérémy a fait son interview le long de la Moskva, hein, si je ne m'abuse, en partie, mais aussi dans son bureau, avec d'abord une image incroyable, celle vraiment du chat maigre et de l'ours, qui vraiment rajoutait de la force à cette interview. Tu l'as vraiment asticoté. Tu as essayé d'aller le chercher et il a donné sa vérité, ce qui fait que si on est de bonne foi, on peut comprendre qu'il dit des choses absolument horribles. Oui, mais si on a décidé de ne pas être de bonne foi, ou alors si on est en Russie, ou si on n'a pas mis le contexte des plateaux autour, on se dit, mais on vient de laisser la parole, libre cours complètement, à Piotr Tolstoï, qui est l'un des pires porte-parole de la Russie en France. Donc je vais d'abord parler à l'avocat général, je dirais, le ministère public, et ensuite on passera à la Défense. Paul, qu'as-tu pensé de cette interview ? Sur la forme, on essaye d'aller assez rapidement.
Je sais que le débat existe, même au sein de la rédaction. Je sais que ce sont des choses dont on discute. Est-ce qu'il faut donner la parole à ce genre de personnes ou pas ? Je sais que sur les réseaux sociaux, pour certains, c'est un outil de propagande, enfin des images de propagande qui peuvent être très utiles. D'autres trouvent que c'est pas normal du tout. Bon, moi, je pour être honnête, hein, mon point de vue, c'est que ça ne sert à rien de donner la parole à ces gens-là parce que, en fait, ils vous parlent pas à vous, ils parlent à leur public. Et en plus, il y a tout ce que tu viens de décrire, mais il y a aussi une critique des médias. Et en fait, ils passent beaucoup par la critique des médias pour pouvoir accrocher leur public occidental. Et donc, on sait à quelle clientèle ça parle et on sait que ça peut fonctionner, qu'en fait, lui, il va juste travailler à créer une séquence utilisée sur les réseaux sociaux, au-delà du fait qu'il tienne des discours qui sont, à mon avis, désolé de le dire comme ça, mais totalement fascistes et qui n'ont pas forcément leur place dans nos débats publics. Et en même temps, c'est pour ça que le débat existe, c'est que le fait qu'il y ait cette interview, ce genre d'interview, eh ben, ça montre quand même où on en est, quoi. C'est-à-dire que ce mec va tenir des propos mais hallucinants. Et comme tu l'as justement dit, toute personne de bonne foi va être capable de se rendre compte que c'est totalement fou. Et quelque part, ça parle, ça dit aussi quelque chose sur la Russie, que quelqu'un qui a quand même un niveau de responsabilité pas très élevé, mais qui est quand même au Parlement, que quelqu'un comme lui tienne ce genre de discours. Et je le dis au passage, c'est quelqu'un qui accueillait sans problème Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen quand ils venaient en visite à Moscou à l'époque où ces gens-là...
Tu dis comme ça en passant la parole à la Défense.
Bon, je vois que j'ai du boulot puisque même au sein de ce podcast, tout le monde n'est pas convaincu du bien fondé de cette interview. Déjà, le contexte. Piotr Tolstoï, pourquoi on allait le chercher ? Il est francophone. C'est la voix du Kremlin pour nous, les Français. Le Kremlin, c'est Vladimir Poutine. Donc, si on ne donne pas la parole à Piotr Tolstoï, on ne donne pas non plus la parole à Vladimir Poutine. C'est-à-dire qu'on se mettrait des œillères, on fermerait les écoutilles et puis il n'y aurait plus son, plus d'image de ce qui vient en Russie. Mais alors, comment peut-on avancer si on n'écoute pas du tout la personne qui est en face, j'allais dire l'adversaire, pour reprendre les mots d'Emmanuel Macron. La deuxième chose, c'est que Piotr Tolstoï, c'est un francophone qui a vécu en France, qui a étudié en France. Il était libéral, il était occidentalisé, imprégné notre culture et son parcours de vie dit quelque chose de l'évolution des Russes. Il s'est radicalisé et aujourd'hui, il dit des mots absolument horribles en dénonçant l'homosexualité de notre Premier ministre comme étant un facteur de perversité, en menaçant de mort tous les soldats français qui viendraient à aller en Ukraine. Donc bien sûr, là est son message. Et c'est la troisième partie de ma réponse, Paul, pour te convaincre et à travers toi peut-être les auditeurs de notre podcast, à ceux qui pensent que la Russie ne fait que reprendre ses territoires en Ukraine parce qu'ils ont un passé commun, à ceux qui pensent que Poutine s'arrêtera là. Quand on entend le discours de ces porte-parole comme Piotr Tolstoï, on comprend qu'il ne s'arrêtera pas là parce que son ennemi, ce n'est pas les Ukrainiens nationalistes, son ennemi, ce ne sont pas les néo-nazis qu'il voit partout en Ukraine, qui n'existent évidemment pas. Son ennemi, c'est l'Occident et les valeurs que l'on incarne. Et donc, nous sommes aussi les ennemis de cette Russie-là. Et donc, à tous ceux qui seraient aujourd'hui tentés de limiter l'effort européen, français, en soutien aux Ukrainiens, l'interview de Piotr Tolstoï sonne, selon moi, comme un rappel. Attention, ils ne s'arrêteront pas aux frontières de l'Ukraine.
Oui, alors, je suis plutôt d'accord sur la majorité de tes arguments. Seulement, Vladimir Poutine, on l'entend déjà. Dmitri Peskov, son porte-parole, on l'entend déjà aussi. Et les voix un peu folles, Dmitri Medvedev notamment, ou les propagandistes du Kremlin, on les entend déjà. Après, je ne remets pas en cause ton interview parce qu'effectivement, tu l'as un peu secoué. C'était, quand même, c'était assez intéressant à voir.
Oui, c'est un autre débat que moi-même, j'ai déjà eu avec moi-même sur des zones de conflit où, évidemment, tout ce qui est base du journalisme se retrouve un peu bousculé avec le fait de donner la parole aux deux parties. Ce sera peut-être... Oui, peut-être
non, juste un dernier mot. C'est intéressant, en tout cas, pour les auditeurs, de savoir, et c'est la discussion qu'on vient d'avoir, que ce sont des choses qu'on discute dans les rédactions. Ce n'est pas forcément une évidence de donner la parole à ce genre de personnes et que le débat, il vit toujours.
Et l'autre point aussi très important, c'est la contextualisation. On sait qu'aujourd'hui, vous pouvez découper, juste la partie qui vous convient si vous avez un biais politique, mais ça, la régulation, on ne peut pas encore le faire. Nous, notre job, c'est de le mettre justement en contexte avant, après le plateau, y compris pour totalement défaire ce qui a été dit et revenir sur les propos, notamment homophobes, de Piotr Tolstoï. On va se quitter là-dessus, Jérémy. Est-ce que tu peux me rappeler la date de ton document à venir, long format, qui, disons-le, il devait faire 26 minutes, vu tout ce que vous avez tourné et vu, va faire quasiment le double.
Oui, parce que toutes les personnes qu'on a rencontrées, en fait, étaient passionnantes. Donc, ce documentaire fera 45 minutes. Il est diffusé le 6 mai prochain, en immersion dans la Russie de Poutine. Ce sera à suivre en soirée sur BFM TV.
Le 6 mai, c'est juste avant le 9. Tu y seras sans doute à Moscou. Pourquoi exactement ?
Militaire, vraiment la journée la plus patriotique d'une année en Russie, le 9 mai.
Et puis d'ici là, on a encore...
Et puis il y aura l'investiture de Vladimir Poutine aussi.
Et tu y seras aussi. Et de toute façon, on va se retrouver toutes les semaines, Paul. On a accueilli avec beaucoup de joie Jérémy pour cette fois-ci. Tu reviens d'ailleurs quand
Merci
tu
veux. Merci de m'avoir accueilli.
Et on se retrouve à la semaine prochaine. Et d'ici là, vous pouvez retrouver tous les épisodes de notre podcast original dans l'œil de Moscou sur bfmtv.com, BFM Radio et sur toutes les plateformes de streaming. À très bientôt.